bienvenue dans le 22e épisode d'Interlude, votre podcast de découverte musicale. Pour cette deuxième saison, la formule change, Tim est malheureusement loin de moi maintenant, et je serai toutes les deux semaines avec un nouvel acolyte. Salut Arthur.
Salut, à vous.
On se retrouve donc toutes les deux semaines pour découvrir non pas 5 mais 4 morceaux, à travers un artiste d'actualité et deux albums. On attend bien évidemment vos retours sur ce nouveau format à Interlude le podcast sur Facebook, Interlude RK sur Twitter et Interlude-du-8 podcast sur Instagram.
Cette semaine, on va vous parler de l'actualité de Metronomy.
En effet, le 29 juillet 2019 est sorti Walking in the Dark, single extrait de l'album Metronomy Forever, qui sortira le 13 décembre 2019 et on l'écoute tout de suite. On vient de s'écouter Walking in the Dark de Metronomy, single extrait de l'album Metronomy Forever qui sortira le 13 décembre prochain.
Un morceau qui laisse présager quand même un album un peu particulier par rapport à ce qu'on a entendu d'eux jusqu'à maintenant. Un truc peut-être plus actuel parce que sur les derniers albums, ils ont eu tendance à faire pas mal des hommages à des styles ou des époques, notamment avec Love Letters, avec clairement les années 70, Summer 8 le dernier qui était plus années 80-90.
Puis en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette nostalgie de fraîcheur de création. Là, ils ont ressorti cette année une réédition de Nights Out.
Ouais, j'ai pas vu ce que ça change. Ils ont changé un truc dans le mastering ou quoi?
Non, ils ont fait des... simplement pour le ressortir, le revendre. Je suppose que c'est aussi une question de thune, mais pour remettre un petit peu en avant, entre guillemets, justement cette fraîcheur de création. Peut-être qu'ils essayent de retrouver avec le prochain album. En tout cas, j'espère que c'est ce qu'il va y avoir. C'est ce que j'ai lu dans plusieurs interviews qui disaient que... Il y avait ce côté un peu, on fait de la musique dans la chambre et on réfléchit moins. Ça a l'air d'être moins le cas ici, ce qu'on perçoit moins à travers ce single-là. Mais je sais pas, il y a quand même un truc où, genre des trucs un peu expé, style, là, il n'y a pas de grosse caisse, par exemple, à aucun moment dans le morceau, quoi.
Ni de snare.
C'est voilà.
Enfin, et alors que pourtant ça bouge et tout, et avec le petit beat reggae, effectivement, ça donne, ouais, ça donne envie de pique-niquer, quoi.
Bah, en tout cas, j'espère que tous les autres morceaux seront aussi frais que celui-là.
Bah, les deux autres extraits, au début, j'ai eu un peu peur, genre quand il y avait le tout premier, c'était Lately. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'ils ont fait, et puis à force de le réécouter, je me suis dit, ok, c'est cool, je fais confiance. Le deuxième extrait, je me suis dit, en fait non, c'est chaud. Le deuxième extrait, du coup, Salt Caramel Ice Cream, qui est pareil, m'a pas forcément enchanté. Finalement, c'est sur cette chanson là que j'ai plus capté le délire global que je pouvais imaginer, du coup attendre. Mais de toute façon, Metronomy, il fonctionne un peu comme ça. Sur Summer 8, par exemple, il y a des morceaux qui sont plus voués à faire danser, notamment au début de l'album de Summer 8, et puis à la fin on a des trucs un peu plus expé, plus peut-être plus intéressants, et qui donnent du cachet à l'album dans la globalité, quoi.
Ça fait quand même pas mal d'artistes sur cette année ou les années suivantes, ou même ce qui s'est passé, qui commencent à avoir un certain nombre d'albums et qui se posent la question justement du renouvellement, de l'originalité, etc. Je trouve il y a un peu deux directions dans ces cas-là. Soit justement ils essayent de faire des trucs un peu plus nouveaux, expérimentaux, de se remettre en question, de revenir aux origines de la de comment ils créaient à la base. Soit au contraire, ils s'enferment des trucs trop produits.
Mais là, c'est un peu un mélange des deux. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. J'ai vu des interviews où, concrètement, ils disaient aussi qu'avec l'âge, ils se sentaient plus libres de faire des choses qu'ils n'osaient pas faire avant. Et pas forcément dans le côté expérimental, à mon avis, mais plutôt justement dans le côté un peu grand public, ouais, tu vois. Oser chanter de manière abusée, ou oser faire des prods qui sont simples et efficaces et tout.
Parce qu'il y a des fois, je pense qu'effectivement, au début, on peut ne pas s'amuser sous prétexte justement d'une volonté de création musicale, entre guillemets, quoi. Enfin, enchaînons du coup sur la première chronique, on va parler d'un premier album, donc Arthur, à toi.
On attend avec impatience le prochain album du groupe britannique, et ça nous donnait l'occasion de revenir sur le premier album de Metronomy, beaucoup moins connu que ceux qui l'ont suivi. Il est sorti en 2006 et se nomme Pip Payne, Pay the 5000 Pounds You Own. C'est une référence à une drôle d'anecdote. Dans la ville de Totnes, où Joseph Mount, leader de Metronomy, est né, un certain Pip Payne devait de l'argent au carrossier de Totnes. Et ce dernier laissait ses voitures au beau milieu de la ville avec inscrit dessus « Pip Payne, paye les 5000 pounds que tu dois ». Influencé par Frank Zappa, Kraftwerk, Aphex Twin et tant d'autres, Joseph Mount décrit cet album comme « le son de quelqu'un qui vit dans un lieu musicalement redondant et qui essaye de faire de la musique excitante ».
Thank you.
nous venons de nous écouter Trick or Treats, la 7e track de l'album. Alors que la voix si particulière et personnelle de Joseph Mount est aujourd'hui plutôt célèbre, c'est assez amusant de constater qu'il s'agissait de la seule chanson de cet album. En effet, il est quasi instrumental, et finalement se rattache plus à un courant électro-expérimental qu'à la pop qui sera le mot d'ordre du groupe par la suite. Même si de par son allure lo-fi, cet album est bien moins accessible que les suivants, on retrouve d'ores et déjà les beats hyper pop, la curiosité harmonique et les mélodies audacieuses et entêtantes qui caractérisent Metronomy. Bien qu'il se soit renouvelé à chaque album grâce à des partis pris forts et stylistiques, on retrouve toujours un côté mécanique et binaire dans Metronomy, voire même quasi militaire dans Pip Payne. Une fausse simplicité qui permet de se laisser surprendre et de s'attacher à la musicalité personnelle et sincère de Joseph Mount. On ressent aussi un côté très ludique dans cet album Homemade. Il y a comme un air de fête foraine, hein. C'est un peu dissonant, étourdissant parfois, mais toujours inventif, coloré et récréatif. Pip Payne est aussi beaucoup moins mélancolique que les albums suivants. De par ses sons électro très crispés et les tempos assez élevés, on peut plus se laisser embarquer à la première écoute par le côté entraînant, enfantin, cynique et malin qu'on retrouve d'ailleurs dans les noms des morceaux. Love Song for a Dog, Peter Pan, New Toy. À cette époque, en 2006, Joseph Mount avait 24 ans. Et il traînait dans les nightclubs d'EDM où il essayait d'être DJ, sans succès. Metronomy n'était alors pas encore le quintet qu'on connaît. Il ne sera formé définitivement qu'en 2011 pour l'album The English Riviera qui le fera rencontrer le grand public. Pour le moment, Joseph œuvre tout seul. Il ne savait pas encore que Metronomy fêterait ses 20 ans en septembre 2019 avec un sixième et dernier album appelé Metronomy Forever.
Quand Arthur m'a dit qu'il voulait parler de Metronomy, ça m'a fait tout de suite penser à un groupe qui s'appelle Royal Canoe, qui pour moi est très proche stylistiquement, que ce soit à travers l'approche rythmique ou dans l'interprétation des voix. Donc on s'écoute tout de suite Button Fumbla, tiré de l'album Today's We're Believer de Royal Canoe. We'll be right back. c'était Button Fumbler de Royal Canoe, prononcé en anglais bien sûr, extrait de l'album We're Believer, sorti en 2013. Alors je vais essayer un truc qui est un petit peu nouveau pour moi, je vais essayer d'abord de parler de l'album, de l'analyser, de vous parler un peu de mon ressenti, avant de parler de l'artiste et de faire un historique, peut-être parfois un peu redondant. Alors pourquoi j'aime bien Royal Canoe ? D'abord parce que je trouve que, à travers leurs enregistrements et leurs disques, il y a un véritable travail d'artisan, même artisan spécialisé, qui transpire, que ce soit à travers l'arrangement, la production, donc tout ce qui peut concerner l'enregistrement, honnêtement, c'est un peu comme Fools, il y en a partout. Et malgré le fait qu'il y ait 1000 idées à la seconde, même au-delà de 1000 idées à la seconde, honnêtement, il y en a quand même des tonnes, quoi, genre des fois c'est un peu too much, mais je trouve que c'est jamais bordélique, et c'est un peu comme Fools, ça me fait cet effet-là d'un peu un espèce de voyage où tu sais pas ce qui va t'arriver, mais tu t'en prends plein la gueule, et en fait c'est cool. Donc ça fait plaisir, au lieu de s'en prendre plein la gueule et que tu fasses « Ah, je m'en suis pris plein la gueule », donc c'est plutôt pas mal. Bref, on va arrêter là-dessus, sur cette métaphore. Ensuite, ce qui me fait vraiment beaucoup aimer ce groupe, c'est le travail autour de l'ambiance. Je trouve que chaque morceau dégage un mood, que les paroles sont absolument là que pour souligner ce mood-là. D'ailleurs, c'est très souvent l'évocation d'un lieu, d'une situation, et en gros, les paroles, c'est de la description de ce lieu ou de cette situation en prose, quoi. Pour parler un peu de la structure de l'album, pour moi, les 5 premiers morceaux, ça pourrait être un EP avec tous les tubes qui présentent le groupe, en fait. Donc on commence par un premier morceau qui introduit un peu les tricks de composition du groupe, qui s'appelle « Today's We're Believers ». Ensuite, un deuxième morceau un peu plus rancindé, un peu classique, Hold On The Metal, qui aurait pu être du Falls, honnêtement. Ensuite, un troisième morceau, le truc un peu abusé, mélancolique, qui s'appelle Exodus Of The Year. Et après, le gros tube, C'est La Joie, C'est La Fête Au Village, qui est quand même chouette, hein, très sincèrement, je le trouve vraiment très très bien, qui s'appelle Bathtubs, et qui a un petit côté Jamiroquai, donc voilà, ce côté un peu... ce côté un peu fête, un peu on danse, quoi. Et en gros, sur la suite de l'album, on a un espèce de dégradé de couleur de morceaux, jusqu'au gros morceau abusé de fin d'album qui fait plaise, avec même un petit solo de gratte. Ça c'est ouf. Donc pour reparler un petit peu du groupe, Royal Canoe, c'est un groupe canadien que vous avez déjà entendu peut-être à travers le morceau qu'on entend en arrière-plan qui s'appelle Stemming, qui a été diffusé dans une playlist de Nova. Ils sont 6 et ils sont tous intégrés dans le processus d'écriture et de composition. Today's We Are Believers est leur premier album, s'en est suivi 2 autres en 2014 et en 2016, et ils ont sorti un nouvel album début 2019 qui s'appelle Wave, que je vous encourage à écouter. Pour parler un peu de leur actualité, ces derniers temps ils se barrent un peu dans tous les sens. Ils ont sorti un EP en juin 2019 avec le rappeur 3Pit, et là ils s'apprêtent à faire un concert de reprise de Pink Floyd. Unique. Genre, je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête.
Ok, il y a déjà des groupes qui font ça. Hein.
Oui, je sais. Mais en plus, genre, l'annonce qu'ils ont fait sur Facebook à propos de ça, c'est en mode hey, petite surprise de l'automne, vous y attendez pas.
On va faire une tournée Pink Floyd.
Non, pas une tournée, une seule date.
Juste une seule date.
Je comprends pas.
Où ça? C'est un gros truc.
Au Canada, du coup. Je sais pas si c'est une grosse salle, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, c'est un événement unique. Ils se sont fait chier à monter un répertoire Pink Floyd pour une date parce que ça les fait triper, quoi.
Ok, le kiff. Nickel.
Je sais pas quoi te dire, mais bon, s'ils se font plaisir, tant mieux. Enfin, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce groupe. Je vous laisse avec Stemming.
Et c'est déjà la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté et d'être au rendez-vous. N'hésitez surtout pas à nous donner un retour sur ce nouveau format.
On rappelle donc Interlude le podcast sur Facebook, Interlude RK sur Twitter et Interlude-du-8 podcast sur Instagram.
Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast pour retrouver les artistes dont on vous a parlé.
On se retrouve dans 2 semaines.
A bientôt. On vous laisse avec Month of Sundays tiré de l'album Love Letters de Metronomy. Much about it, 'cause I've got your mystery and I couldn't live without her. We're kind of sleeping in your love. Say I'm cheapening your love, but it's.
dream that I plan on setting free now. She buzzes a bell and run, we skip and laugh. I hold her hand. She comes in my halo. What she meant to me, I couldn't see. I see what's in the love.
Le générique de cette émission a été composé par le groupe Alloué, alors n'hésitez pas à aller les découvrir. Un grand merci aussi à Léo Barbet qui s'occupe de toute la partie visuelle de cette émission. Et bien sûr un grand merci au réseau de podcasts Radio Kawa qui produit cette émission. Alors on vous engage à découvrir d'autres podcasts du réseau. Et d'ailleurs voici une promotion pour un autre podcast que vous pouvez aller découvrir sur radiokawa.com.
On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin ?
C'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Wink. Générique et soundtrack d'anime, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
Puis on n'avait pas de doujin hentai ni zekai non plus.
Mais arrête, Pépé.